Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche de carême, nous rappelons notre entrée dans ces 40 jours qui nous sont proposés sur le pas de Jésus. 40 jours qui ont commencé avec une interpellation de Dieu lui-même. « Revenez à moi de tout votre cœur », ce qui supposait que nous nous sommes éloignés de Dieu et des autres, comme je l'ai dit mercredi décembre. Pendant ces 40 jours, Jésus nous entraîne dans le désert pour que nous puissions apprendre à combattre tous ces éléments, ces réalités dans notre vie qui nous éloignent de Dieu et des autres. Je disais que dans notre vie de tous les jours, vous voyez, il y a tellement de choses parfois qui nous éloignent les uns des autres, d'abord parce que ça nous éloigne de Dieu. Vous allez voir un couple, ils vivent sous le même toit, dans la même maison, mais avec un mur de séparation. L'homme vient, il est tellement accro à la télévision qu'il n'a pas le temps de parler avec son mari. Il est toujours devant la télé. La femme vient, se met au travail, l'homme est là toujours devant la télé. Il n'y a pas de temps. Il y a comme un mur, la télévision est devenue le mur de séparation. Ça les a éloignés, mais tout en vivant sous le même toit. Vous allez voir, parfois, pour d'autres, c'est l'Internet. Les gens vont travailler toute la journée, ils reviennent à la maison. Au lieu de prendre le temps d'être ensemble en famille, non, chacun va dans son coin. Et il est toujours là devant l'Internet. Les gens, au lieu de passer le temps à dialoguer, à se partager les nouvelles et peut-être même à prier ensemble, chacun dans son coin. Alors l'homme vient ou la femme revient du travail, alors il est, elle, devant l'Internet et alors chacun s'occupe de ses affaires. Ils sont sous le même toit, mais il y a un mur de séparation. On va voir, j'étais parti avec des amis au restaurant. Et ils avaient amené leurs enfants. On était là et les enfants étaient là chacun avec son téléphone et personne ne parlait. Je pense qu'ils se parlaient à travers leur téléphone. Même les cellulaires sont devenus des murs de séparation. Il n'y a plus de communication. Et de plus en plus notre civilisation est en train de se noyer dans tout cela. Et parfois, on ne fait pas attention jusqu'à ce que nous allons perdre la parole. Jusqu'à ce que nous allons perdre la parole parce que nous ne saurons plus parler. Parce que nous ne saurons plus comment nous parler. Et c'est ça le danger. Ces affaires-là qui nous éloignent les uns des autres nous éloignent aussi de Dieu. Et c'est comme ça que vous voyez dans la plupart des cas. Parce que nous n'avons pas le temps entre nous, nous n'avons pas non plus le temps pour prier Dieu. Voilà pourquoi le premier dimanche de carême commence avec cette mise en présence dans le désert. Jésus qui est parti dans le désert. Nous avons tous, chers frères et sœurs, besoin d'un moment de désert dans notre vie personnelle, comme dans notre vie de couple, comme dans notre vie de famille. On a besoin de ce moment de désert. Si nous ne nous le donnons pas de moment de désert dans notre vie, la nature va se charger de nous le donner. La nature va se charger. J'étais dernièrement, cette semaine, avec un couple qui était en difficulté. Ils ont eu un seul enfant, un garçon de 19 ans. Et voilà que ça fait des mois et des mois, ils ne se parlaient pas. Et cet enfant est tombé gravement malade. Et cet enfant est entré dans le coma. C'était une question de vie ou de mort. Et là aussi, une question de vie ou de mort pour le couple. Et là, ils se retrouvaient à l'hôpital. Ils se retrouvaient à l'hôpital ensemble. Ils n'avaient pas de choix. Ils devaient se parler. La maladie de l'enfant les a mis dans une situation de désert. Ils ont réalisé que ils risquent de perdre tout ce qu'ils ont. Et après avoir perdu l'enfant, ils allaient perdre tout ce qui les lie ensemble. Ils venaient de le réaliser. Le désert nous met en face de notre réalité, en face des questions existentielles, en face de vraies questions que nous avons à nous poser. D'où venons-nous? Pourquoi nous sommes là sur la terre? Et où allons-nous après cette vie? Le désert nous permet de nous poser ces questions sans faux fuyant. Et nous avons besoin justement de nous arrêter un peu. Combien de gens, vous n'avez pas, vous-même vous avez vécu cela, ils étaient tout le temps en train de courir, chacun dans son coin, et ça prenait un deuil dans la famille pour les rassembler. À travers le deuil, ils se retrouvent ensemble et là ils commencent à se parler. Et là ils commencent à réaliser devant un être cher, un être qui était là tout le temps. Parfois un parent, une mère qui rassemblait tout le monde pendant les temps de fête parce qu'année après année, elle était le point de rencontre de tout le monde et cette mère vient de partir. Et là les enfants se retrouvent tous ensemble autour de cette mère-là. Et là les questions commencent à surgir. Mais si on ne se met pas ensemble, qui va prendre la relève de ce que maman faisait? Des questions existentielles commencent à se soulever. La mort de cette mère devient un moment de désert pour la famille. Alors, de vraies questions surgissent. Et là, ils comprennent l'importance de se visiter souvent. J'ai vu des familles qui ont pris la résolution pour que vraiment chaque année, à telle période, que tout le monde puisse prendre des vacances pour qu'ils se retrouvent ensemble. Mais ça prenait un deuil dans la famille. Si on ne se donne pas ce temps-là, la nature va s'imposer. Il va nous le donner. Et je vous le dis, la nature s'occupera de ça. Parce que nous avons besoin de ce temps de désert. Si nous sommes trop endurcis dans notre cœur, la nature va nous amener à faire face à cette réalité où nous avons besoin de nous poser de vraies questions sur notre existence. Parce que Dieu veut notre salut. Il ne veut pas nous punir. Mais si ce salut doit passer par la mort d'un être cher, ça passera par la mort d'un être cher. Si ce salut doit passer par la maladie, ça passera par la maladie. Les gens viendront prier. Tu ne guériras pas parce que cette maladie doit t'amener dans le désert profond. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. Et c'est une loi spirituelle. C'est pour cela que nous devons nous donner ce temps-là. Combien de gens, ils ont mené leur vie en courant partout, et à la fin de leur vie, ils se sont retrouvés immobiles, dépendants de toutes ces personnes qu'ils avaient négligées. Leur vie dépendait de ces gens-là. Et pendant ce temps, ils ont commencé à se poser des questions sur le sens de leur vie. J'ai travaillé pendant longtemps, j'ai gagné ma vie, j'ai eu de l'argent, et je finis ma vie de cette façon-ci. Des questions existentielles. Jésus nous amène au désert en ce premier dimanche de carême parce que c'est très important. Devant le désert, nous prenons conscience de quoi? Nous prenons conscience de toutes ces réalités. Ici, dans l'évangile, il est question de tentation, mais de toutes ces réalités qui nous éloignent de Dieu et qui nous éloignent souvent des autres. Il y en a tellement, tellement de réalités. Et pendant, dans le désert, ce sont ces réalités-là que nous découvrons au-dedans de nous-mêmes. La première réalité que Jésus nous révèle, c'est la faim. Notre monde, on dirait, nous sommes aujourd'hui, nous appartenons à une civilisation qui a toujours faim. Vous pouvez donner à manger, elle a toujours faim. Faim, elle ne sera satisfaite jamais. On lui donne ceci, elle demande encore plus. On lui donne ceci, on dirait qu'elle a tout le temps de faim. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une obsession. On a comme une obsession, on veut toujours avoir, même quand on en a toujours. J'ai vécu quand je suis arrivé au Canada avec une dame de 88 ans. Et cette dame-là, 2 ans après, elle est tombée malade de cancer. Et le temps qui suivait, elle savait qu'elle devait mourir, je l'ai préparée à mourir. Mais après, je vous dis, quand on a commencé à sortir les affaires pour nettoyer la maison, on a découvert des mâles et des mâles, des habits, je vous dis là, des habits neufs qu'elle avait sûrement achetés pour les enfants quand ils étaient encore enfants. Quand ils ont grandi, ils étaient adolescents. Des habits qui étaient toujours là-dedans. Des chemises blanches qui sont devenues rougeâtres parce qu'on ne les a jamais sortis de leur contenant. Des chemises neuves. Il y en avait plein. Vous les touchez et ça se déchiquetait d'elle-même. Pendant ce temps-là, elle continuait. Parfois, elle avait oublié qu'elle avait déjà. Elle en avait déjà assez. Elle continuait à acheter. Elle continuait. C'est une faim. On ne se rassasie jamais. On a toujours tendance à vouloir, à vouloir. Le Seigneur nous dit, le royaume qu'il est venu établir ne consiste pas d'abord au manger, au vêtir et au boire. C'est plus que cela. C'est d'abord une question de relation avec Dieu. La vraie faim, comme disait Jésus, toi tu me donnes de l'eau, mais moi si je te donne de l'eau, c'est une eau qui va devenir une source en toi. Tu n'auras plus jamais soif de cette eau-ci parce que tu vas désirer une autre qualité d'eau dans une autre dimension. Beaucoup de gens ont suivi Jésus parce qu'il leur donnait du pain qui rassasie le corps. Jésus dit non, ne me suivez pas pour ce pain-là. Suivez-moi pour le pain qui vous introduit dans l'éternité. On est trop, toute notre faim est liée aux choses que nous allons laisser après nos cancers. Je célèbre 100 sur 100, 100 funérailles, 80 meurent de cancer. Et tout reste. Toutes nos fins sont liées à ça, à tout ce que nous allons laisser sur la terre. Jésus veut justement nous introduire dans une autre dimension. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Pas seulement de pain. Nous sommes plus que le pain. Nous sommes plus que les habits. Nous sommes plus que cela. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes, Dieu nous a établi un peu moindre que Dieu, mais il nous a doté de gloire et de louange pour que nous puissions les manifester. Nous sommes faits pour l'éternité, chers frères et sœurs. Notre fin est mal placée. C'est pour cela, vous voyez, parfois on suit Dieu de la mauvaise façon parce que nos fins sont mal placées. Et la deuxième tentation que Jésus nous révèle, c'est le royaume, le pouvoir. Le pouvoir, la convoitise de grandeur. On veut toujours être le premier, on veut toujours dominer, on veut toujours avoir le dernier mot, on veut toujours que les autres soient là pour nous admirer, nous, et que nous, nous ayons toujours à les écraser. Au niveau politique, au niveau militaire, au niveau, les grandes puissances se bâtissent autour de la puissance des armes. On devient grande puissance quand on a une armée, et tout l'argent, le budget. Quand vous regardez les grandes puissances, la majorité, le gros du budget va toujours dans les armes. Parce qu'on veut dominer. On veut dominer les autres. On veut dominer toujours les autres. Sur le plan économique, c'est la même chose. Qui dicte les lois? Des gens là qui sont trop riches et qui ont beaucoup d'argent. Quand ils ont investi pour fabriquer un produit, un médicament, même s'ils réalisent que le médicament va tuer les gens, ils vont dire, donnez ce médicament-là et nous allons le prendre. On n'a pas de choix. Ce sont eux qui vont dicter parce qu'ils ont la puissance. Jusqu'à ce qu'ils vont ramasser leur argent, quand ils auront récupéré leur argent, et là on va signaler que arrêtez de prendre ce médicament parce que ça a des effets, parce que ça cause tel médicament. On est régi par ces gens-là, notre monde aujourd'hui. Le pouvoir de dominer les autres, même si cela doit coûter la mort. Regardez aux États-Unis, ceux qui manipulent les armes, parce que ça leur apporte que les gens meurent par milliers. Qu'est-ce que ça leur dit? Pourvu que l'industrie fonctionne. Et on ne peut pas toucher à ça. Même si l'homme meurt, on ne peut pas toucher à cette loi. Jésus est venu nous dire, la loi est faite pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour la loi. On est dirigé, dicté dans notre société d'aujourd'hui et dans notre génération par l'obsession du pouvoir pour dominer. On veut dominer les autres. L'argent est pour dominer. La politique devient pour dominer les autres. Tout devient pour dominer. L'armée devient pour dominer les autres. Et on entre, on grandit dans cette logique-là. Parfois, ça entre dans la famille. J'ai toujours le dernier mot. Les autres n'ont rien à dire. C'est cette tentation-là qui nous éloigne de Dieu. Et c'est cette tentation-là qui nous éloigne des autres. Jésus nous dit, vous êtes tous des frères et des sœurs. Que le premier, celui qui veut être le premier, qu'il devienne le dernier. Et celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur. C'est dans le service que les gens doivent vous élever. Et non pas dans les armes, et non pas dans l'argent. Dans le service que vous serez grand devant Dieu. Ça c'est le langage de la croix qu'on n'aime pas entendre. Le temps de carême nous introduit dans cela parce que nous sommes invités à mener le combat dans le désert de notre cœur, de notre vie, mais dans le lieu qui nous éloigne de Dieu et qui nous éloigne des autres. Nos armes nous éloignent les uns des autres. On a peur des gens, ils sont trop puissants parce que même si tu as raison, tu vas aller avec lui, tu sais que tu auras tort. on a peur d'eux, ça nous éloigne. Mais Jésus vient nous donner un autre langage, l'amour. L'amour ne s'enfle pas, l'amour ne s'enorgueillit pas, l'amour ne fait pas du mal aux autres. La loi que Dieu vient nous donner, c'est l'amour. Si on pouvait s'aimer au lieu de se battre, si on pouvait s'aimer au lieu de se haïr, c'est ça que la loi que Dieu vient nous donner. Et la dernière tentation, c'est la tentation de tenter Dieu par l'expression « si tu es le Fils de Dieu ». Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais cela. À la fin de la vie de Jésus, il était sur la croix et les gens passaient, ils se moquaient de lui en lui disant, si vraiment tu es le Fils de Dieu, descends de la croix là où tu es et nous croirons en ton Dieu. On se moquait de lui comme ça, si tu es le Fils de Dieu. On veut tenter Dieu. Dieu est Dieu, chers frères et sœurs. Si nous devons montrer que nous sommes des enfants de Dieu parce que nous sommes trop riches et ceux qui sont pauvres, comment ils pourront dire qu'ils sont aussi enfants de Dieu? Si nous voulons prouver que nous sommes des enfants de Dieu parce que nous sommes guéris par une prière miraculeuse et ceux qui ne guérissent pas, comment ils pourront dire qu'ils sont enfants de Dieu? Si nous voulons prouver que nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes puissants et ceux qui sont faibles, comment pourront-ils dire qu'ils sont enfants de Dieu? Si nous voulons dire nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes en santé et ceux qui sont handicapés, comment ils pourront être enfants de Dieu? Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes en santé. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes riches. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes puissants. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu nous aime. Point très, simplement parce qu'il nous aime. Il peut aimer un riche, il peut aimer un pauvre. Il peut aimer un homme en santé, il peut aimer un homme qui est handicapé. Dieu les aime tous de la même manière. C'est en cela que nous sommes enfants de Dieu. Pas parce que je suis guéri que je suis enfant de Dieu. Pas parce que je suis malade que je ne suis pas enfant de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Alors le problème c'est que si je ne fais pas attention, quand j'ai prié Dieu et qu'il ne m'a pas donné ce que j'ai demandé, alors je tombe dans la tentation. Mais si Dieu existe, pourquoi il n'a pas exaucé ma prière? La tentation est toujours là. Dieu est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit, il sait faire concourir, coopérer tous les événements, toutes les circonstances, même douloureuses, pour le bien de ses enfants. C'est après beaucoup de coups, beaucoup d'années seulement, j'ai compris moi. J'ai dit, pourquoi moi, ma mère est décédée à 3 ans? Aujourd'hui, je le réalise, je vois mes amis avec qui j'ai grandi. Je vois mes amis avec qui j'ai grandi. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment on peut dire merci à Dieu pour sa mère qu'on a perdue à 3 ans? Mais je l'ai compris des années et des années après. Waouh, j'ai dit Dieu, tu m'aimes. Tu m'aimes. Je vous dis, j'ai appris des choses que mes amis n'ont jamais appris. J'ai reçu une fois un père oblat africain qui est venu. Il était tellement gâté dans sa famille. Il est venu, moi je suis allé, je fais une sortie, je l'ai laissé là. Je suis revenu, je dis tu as mangé? Il dit non. Je dis pourquoi? Mon cher, je ne sais pas préparer. À ton âge, il ne savait pas préparer. Il ne savait pas faire la cuisine. Moi je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix. À partir de 5 ans, j'ai commencé à apprendre comment manipuler les choses de la cuisine. Lui, jusqu'à cet âge, il ne s'est pas préparé. Il aurait toute la nourriture dans la maison. Il ne serait pas capable de se nourrir parce qu'il n'a pas appris à préparer. Je prends juste ces détails-là et je peux donner tant d'exemples. Dieu est Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant, on comprend seulement plus tard. Nous devons marcher dans la confiance. Dieu n'est pas un bourreau pour nous faire souffrir. Dieu n'est pas un bourreau pour se réjouir de prendre quelqu'un que nous aimons et le faire mourir. Il n'est pas un bourreau, c'est quelqu'un qui nous aime. Et parfois nous ne comprenons pas toujours pourquoi cela arrive. Mais nous devons apprendre à lui faire confiance parce que lui comprend. Le premier dimanche de Carême nous invite à cela. Entrer dans la confiance, marcher dans la confiance et mener le combat avec confiance parce que nous ne sommes plus seuls. Dieu est avec nous. Je vous invite, chers frères et sœurs, vous savez, je parle beaucoup, mais je vous parle tout le temps avec mon cœur, parce que c'est vraiment important que nous comprenions les choses de Dieu. Il nous aime tellement, tellement, qu'il veut nous rappeler que nous sommes destinés à vivre dans l'éternité. Dans l'éternité, les choses qui nous éloignent de Dieu vont passer. Nous allons les laisser. Nous allons les laisser. À la fin, c'est un prisme. Nous allons partir avec l'essentiel, avec le minimum, avec juste un nom. À la fin, moi je dis, je veux partir avec un nom à la fin. Et je veux vraiment que ce jour-là, que je parte avec mon identité de fils de Dieu. Fils de Dieu. Le reste, ça va rester. Peut-être plusieurs parmi vous ne savez même pas. Moi, je suis un docteur en théologie. Je ne vous ai jamais dit ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est un titre qui va rester. Quand je serai dans le cercueil, on ne m'appellera jamais comme ça. On va m'appeler François, mon nom chrétien. C'est ça qui va rester. Le reste là, ça restera pour les gens, ça restera pour le bureau. Mais mon identité, l'essentiel de ma vie avec laquelle je vais partir, ça va être simplement cette relation que j'ai établie avec le Seigneur dans mon vivant, et ça va m'introduire dans l'éternité. Alors prions, chers frères et sœurs, les uns pour les autres, pour que ce temps de carême soit un temps de profondeur où nous revenons à l'essentiel. Amen.